Bienvenue sur le podcast Marketing Manager. Dans cet épisode, on accueille Alexandre Azra de visiopernoel.com. Donc visiopernoel.com, c'est le premier site qui permet aux enfants d'appeler le Père Noël sur Zoom. Donc c'est une idée qui est très simple, mais qui a été exécutée de très belle manière par Alexandre, de manière en quelques mois à établir une position sur le marché, à avoir un business qui a été mentionné dans la presse. Il a été mentionné sur TF1, France 2, M6, Energy, de nombreux sites spécialisés et par de nombreuses influenceuses dans le domaine des mamans sur Instagram. Et le résultat, c'est qu'en deux mois, donc sur la période de Noël 2020, il a vendu plus de 2500 visioconférences pour à chaque fois une vingtaine d'euros. Donc, je vous laisse faire les multiplications. Ce qui m'intéressait dans l'histoire d'Alexandre, c'est comment est-ce qu'il a pris ses concepts de marketing, comment est-ce qu'il a trouvé une idée, un besoin, comment est-ce qu'il a mis en place différentes pièces du puzzle pour arriver sur un business. Et comment est-ce qu'il va faire levier sur ses premiers résultats pour l'année prochaine et la suivante pour créer quelque chose qui va être pérenne sur le long terme. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon épisode avec Alexandre Azra. Salut Alexandre et bienvenue sur le podcast.
Salut Stan.
Première chose dont je veux te parler avec toi, on avait un peu évoqué ça avant d'enregistrer, c'est l'idée. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et puis ils ont toujours un petit peu les mêmes idées qui tournent autour des mêmes types de produits et de services. Et parfois, j'essaie de d'arriver les gens à penser de manière un peu plus originale en disant, tiens, essaie de trouver un besoin. Toi, tu as trouvé une idée. Et c'est vrai qu'en regardant tes documents, ça m'a rappelé que ce truc-là, en fait, il existait déjà. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, il y avait effectivement des pubs à la télé avec un gars qui chantait un petit numéro de téléphone et il fallait appeler pour pouvoir parler au Père Noël, en fait. Et une fois, ce que tu t'es dit, c'est pourquoi est-ce que ce truc-là, je le fais pas en visio. Parlons un peu de la genèse de l'idée.
En fait, j'ai eu l'idée à Noël 2019. J'ai deux petits-neveux qui sont en âge de croire à fond au Père Noël. Et j'étais chez ma mère. Ma mère connaît un mec qui fait ça, qui fait des visites dans les centres commerciaux et puis chez les personnes pour faire des animations de Père Noël. Et je le voyais, du coup, avec ma mère, faire une visio pour mes neveux. Et du coup, j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça. En plus, j'ai pas l'impression que ça existe. Il y a le téléphone, mais il n'y a pas la visio, ça peut être pas mal. Et juste après ça, il raccroche. Donc, les enfants étaient super excités, super contents. Et le Père Noël dit, oh là là, j'en ai marre de faire la route entre chaque personne. Ouais. C'est la course, la semaine de Noël, c'est la course. Du coup, je peux pas assumer toutes ces visites-là. Et puis, je perds du temps sur la route. Du coup, ça va pas. Je lui dis, fais-le en visio. Et puis, comment ça? Et du coup, il comprenait pas, quoi. Donc, ça, c'est le problème des spécialistes qui savent pas forcément gérer la technique et puis gérer leur service.
Parce que le truc, c'est que pour un Père Noël individuel, il faut qu'il construise tout un canal d'acquisition, une clientèle, et en plus les aspects techniques. Mais simplement, tu vois, il faut qu'il se fasse connaître, etc. Si lui doit le faire lui-même, il est un peu dead, quoi. Je suppose que c'est pas trop son business model habituel.
Son business model, c'est du bouche à oreille et puis d'appeler les centres commerciaux du coin et leur dire est-ce que je peux venir faire une animation, quoi. Alors que là, du coup, je lui ai dit écoute, si tu fais ça en visio, tu vas gagner plus de temps, tu vas économiser la route, tu vas en faire plus, tu fais payer un petit peu moins cher et puis après derrière, tu te fais connaître avec de la pub sur internet, etc. Alors lui, il était comme ça, qu'est-ce que tu me racontes? Du coup, je lui ai dit si tu veux, on en parlera Noël prochain. Et puis après, je me disais, comment tu vas le faire? Comment on va les faire payer, etc. Il faudrait peut-être faire un petit site. Puis après, je me suis rendu compte que l'idée était bien, mais ça demandait un minimum d'investissement et de temps et puis d'argent. Et ça correspondait bien si on faisait ça avec plus de Père Noël. Et le temps est passé. Et arrivé, je me suis dit, l'idée, c'est pas pour moi, quoi. C'est une bonne idée, mais c'est pas pour moi. Et arrivé le confinement, du coup, mars 2020, là, je me suis dit, quand même, c'était une bonne idée, ça devient une très bonne idée, en fait, mon truc. Parce que début de la visio à fond, donc on se met à utiliser tous la visio. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai réévalué cette idée-là. J'ai fait 2-3 recherches Google et je me suis rendu compte que ça existait aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas en francophone. Et là, je me suis dit, waouh, bingo. c'est le truc qui est pas mal. Généralement, quand tu es marketeur ou alors tu cherches à créer une entreprise et que tu vois que ça existe aux États-Unis et pas en France, là, généralement, ça donne un petit peu la puce à l'oreille.
Et tu as fait des recherches de marché particulières? Comment est-ce que tu as réfléchi à la question du besoin ou du marché des Pères Noël? Comment est-ce que tu t'es positionné là-dessus? Ou est-ce que tu t'es dit c'est intuitif et ça va marcher?
En fait, au début, j'étais vraiment à ce moment-là vraiment en recherche de création d'entreprise. J'étais en train de lire le livre trouver les bonnes idées de création d'entreprise. À pile à ce moment-là, j'étais à moitié du livre et je me disais, c'est quoi la bonne idée, quoi. Et du coup, ça m'est revenu alors que je l'envisageais pas. Et puis, je me suis dit, attends, du coup, je vais reprendre tout le truc de valider la bonne idée de création. Et puis finalement, je me suis dit, attends, j'en ai parlé avec mon frère, avec d'autres parents, et puis tout le monde trouvait ça excellent. Je me suis, avec le Père Noël, dont je te parlais juste avant. Et puis, je me suis dit, attends, je vais pas perdre tout ce temps à faire vraiment un sondage, faire mon Google Form que je vais répandre, etc. En plus, je vais donner l'idée à des gens. Tout. Je me suis dit, laisse tomber. Je pars sur l'idée que cette idée est bonne déjà. À voir si la concurrence est déjà dessus. Après quelques recherches Google, en fait, j'ai vu que la concurrence existante, c'était, comme tu disais, le téléphone à l'ancienne du Père Noël pour lequel on voyait la pub, qui aujourd'hui n'est finalement que plus qu'un répondeur automatique sur un numéro surtaxé 08. Et puis l'autre concurrent, le concurrent principal, c'est une grosse boîte canadienne qui fait des vidéos personnalisées, préenregistrées. Et là, c'est le studio américain, c'est vraiment le gros truc. Des super qualités de vidéos sur lesquelles on incruste un prénom, deux, trois informations et puis une photo. Et là, je me suis dit, il manque ce truc-là de visio, ça n'existe pas. Il n'y a pas le côté interaction, il y a quand même le côté déception des enfants qui ne peuvent pas parler avec la personne, poser leurs questions, etc. Je me suis dit, il y a un truc à faire à ce niveau-là.
Et du coup, ce projet, tu l'as mis en route à quel moment? À quel moment est-ce que tu as commencé vraiment à mettre en place les briques, le site, etc.?
En fait, je me suis dit... premier confinement, je fais mes quelques recherches, j'en parle avec les bonnes personnes, j'ai quelques personnes que je connais de mon entourage qui sont des bons, ils sont entrepreneurs ou alors des gros postes communication, etc. Donc j'en parle à ces quelques personnes-là à qui je fais confiance et ils me donnent quelques conseils, ils me disent je pense que ça peut le faire quand même, fais attention à ça, à ça, à ça. Je pousse un petit peu la réflexion en parlant du coup à la cible, aux parents, je discute avec je pose des questions aux enfants, je fais mon petit truc, ça prend un peu de temps pendant un mois ou deux à pousser le truc, et puis finalement petit à petit en fait je crée le logo. C'est bête, mais très très vite je crée un logo, je crée un nom, je trouve un nom, et puis je fais mes premières recherches Google Trends, etc., tu sais, pour voir un petit peu le nombre de recherches qu'il y a sur ça. Je vois qu'il y a des gens qui tapent appel vidéo Père Noël pour un service qui n'existe pas finalement. Et là, je me dis, ok, finalement, il y a de la demande, il y a pas un truc qui n'existe pas, donc ça peut être pas mal. Donc j'ai tenté j'ai contacté les Américains pour savoir combien ils faisaient, comment ça marchait, etc. C'était un peu frileux pour donner des infos. Pareil, j'ai essayé de contacter les concurrents sous forme de client, en tant que client, pour essayer de grappiller des informations. Puis après, je me suis rendu compte je perdais du temps, quoi. Je me suis dit, allez, je fonce sur mon projet, j'avance. Je fais un essai. Je fais un espèce de proto de mon côté. Je fais des essais avec ma famille, mon entourage. Je vois si les enfants accrochent, si les parents accrochent. Et puis voilà. Du coup, j'ai acheté tout le matos, les déguisements du Père Noël, la webcam, le machin. Et j'ai fait un truc moi-même. J'ai fait un premier essai moi-même.
Les enfants. C'était à quelle période, ça?
Du coup, j'ai vraiment avancé sur le truc en avril, mais en juillet, j'ai fait des essais. J'avais déjà acheté tout le matos.
Et du coup, c'était toi-même qui te déguisais en Père Noël pour le faire ?
J'ai fait une fois ça. J'ai fait une fois. Okay. Parce que je suis très mauvais animateur. mais les enfants ont quand même adoré. Là, je me suis dit, il y a quand même un truc à faire. C'est obligé.
Donc après, tu t'es dit, tu allais recruter des gens qui sont de toute manière, il y a tout un écosystème de gens qui sont des Pères Noël professionnels, qui savent incarner le personnage et qui, potentiellement, sur l'hiver 2020, allaient avoir du mal à faire leur saison.
Et exactement. En fait, la réflexion après, c'est que je me suis dit, j'avais toujours en tête cette idée de, moi, je suis marketeur, j'ai toujours été commercial, marketing, et puis je touchais un peu au web, mais pas énormément non plus. Pas au point de monter tout un business du début jusqu'à la fin, et puis en faire vraiment développer le site, etc. Du coup, je me suis dit, j'ai un gros avantage comparé aux autres qui vont avoir cette idée-là, c'est que les autres, ça va être des animateurs, eux-mêmes qui vont vouloir faire leur site et proposer leur service en direct. Moi, si j'ai une carte à jouer, c'est en faisant un truc, un gros truc. Très vite, j'ai abandonné l'idée de le faire juste avec un mec et puis d'enchaîner, faire une version premium parce que je me suis ça n'allait pas accrocher. J'allais être pris en concurrence contre d'autres qui vont faire moins cher. Donc, je me suis dit, je vais faire une grosse plateforme. Ça va être le nom. Il faut que je sois premier sur Google. Et très vite, en fait, mon objectif vraiment, c'était être premier sur Google sur le mot Visio Père Noël. Donc voilà, j'ai choisi le nom Visio Père Noël, même si après, je me suis rendu compte que ce n'était pas obligatoire de prendre un nom descriptif comme ça sur Google, mais finalement, ça a bien marché. J'ai poussé ce truc-là sur vraiment la recherche de mots-clés à fond pour être en gros. Je me suis dit, voilà, si je suis premier sur la recherche Google sur cette requête-là, il y a moyen que je sois celui dont tout le monde parle et que la presse va venir voir, etc.
Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour être numéro 1? C'est toi qui as écrit pas mal d'articles. Faut créer du contenu généralement pour être positionné sur Google. Tu as créé des liens. Jusqu'où est-ce que tu as poussé la démarche en termes de référencement? Ou est-ce que tu n'avais pas besoin de la pousser si loin que ça, puisque tu étais la première personne à vraiment proposer ce service?
En fait, je me suis dit, bah, il faut que je sois le premier déjà historiquement. Donc, assez tôt, en fait, dès le mois de mai, j'ai lancé la création du site. Donc, j'ai payé un freelance pour me faire, pour le développer. Et du coup, j'avais fait une maquette, moi, sur PowerPoint. J'avais créé une maquette du site. Je l'ai envoyé et puis à développer le site comme ça. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps. Donc, arrivé août-septembre, je lui ai demandé de le publier, peu importe, coûte que coûte, sans communiquer dessus. Mais il était sur Google. On avait voilà, des textes. J'ai demandé à un rédacteur web voilà, spécialisé SEO pour me faire trois articles voilà, sur le thème, sur les mots-clés, Visio Père Noël, appel vidéo Père Noël. Je savais que les agences de com, etc., s'il y en avait qui allaient communiquer dessus, ça allait commencer à parler à partir de octobre, quoi. Je voyais que les articles, généralement, sur Noël, ça parlait autour d'octobre. Du coup, dès le mois de septembre, voilà, août-septembre, j'ai sorti le site. Et puis, en fait, j'ai eu un gros coup de. Je me suis dit, allez, je donne le tout pour le tout. J'ai trouvé un salon qui s'appelle Journée Presse, destiné au secteur du jeu et jouets. Et là, c'était un gros truc parce que ça coûtait plusieurs milliers d'euros et puis sur une idée qu'on n'est pas sûr, sur un projet voilà, vraiment pas sûr. Moi, j'étais encore salarié à l'époque et puis une idée, voilà, un truc qui n'existe pas encore, ça fait peur de lâcher un gros billet. Je m'étais en train de me dire, voilà, attends, si ça se fait pas, j'ai perdu le site plus les ça plus ça plus ça. J'étais en train de me dire, voilà, je vais perdre au moins, au fur et à mesure du projet, que ça a avancé, je me dis, voilà, là, je vais perdre 7 000, je vais perdre 8 000, je vais perdre 10 000. Je me dis, voilà, et arrivé à un moment, je me dis, bon, il faut que je le fasse, quoi. C'était le tournant, donc tout début, toute fin août, je me suis engagé à faire un salon. Et en fait, c'était le salon sur lequel, voilà, c'était un des derniers salons, en fait, qui existait par rapport au Covid. Et c'était, voilà, il y avait 300 visiteurs, mais c'était la crème du secteur. Donc, des acheteurs pour des magasins type Jouet Club, etc. Il y avait des grosses marques fabricants de jouets. Et puis, il y avait surtout la presse et les influenceurs. Et en fait, ben, voilà, il y avait des TF1, des M6 qui venaient.
Donc, du coup, tu as fait quoi sur ce salon? C'était quoi? Toi, tu avais un petit stand, tu faisais une exposition. Qu'est-ce qui se passait dans ton stand?
C'est ça, en fait. Du coup, il y a à ce salon-là, donc il y avait, j'ai présenté donc mon projet. Voilà, donc j'avais un petit stand de 4 000 carrés sur lequel j'ai
Et
présenté mon
ta
coach.
cible, c'était qui? Du coup, il y avait des parents ou c'était plus des autres personnes de l'industrie ou c'était plus la presse? Qui était ta
C'était
cible?
presse et influenceurs.
Ok.
Donc le matin, tu vois, tu avais RTL, Journal des femmes, et puis TF1, etc., toutes ces personnes-là qui venaient me voir et qui me posaient la question, voilà, qu'est-ce que vous faites cette année, qu'est-ce que vous allez nous sortir? Et du coup, je leur présentais le truc. Donc, allez, c'était moitié de bonnes réactions, moitié de ouais, bon, ça existe déjà, non? Et puis, en fait, du coup, il y a eu quand même un bon retour au niveau de la presse. Donc, ça, c'était cool.
Et dès ce moment-là, tu as commencé à avoir des papiers dans la presse et des reportages ou ça arrivait plus tard, ça?
Ça arrivait un peu plus tard. C'est
Ok.
arrivé un peu plus tard. En fait, ce jour-là, du coup, j'ai eu pas mal de bons retours avec les influenceurs. Et en fait, si, par contre, dès le lendemain, j'ai eu un petit passage télé sur M6. Donc ça qui a fait bien plaisir. Donc ils avaient prévu un petit reportage sur ce salon-là. Et puis finalement, bah, ils ont fait l'accroche. C'était cette année, on va pouvoir parler au Père Noël en visio parce que c'était la grosse nouvelle, la grosse nouveauté du truc. Et puis là, par contre, ouais, ça a fait d'un coup, je ne sais plus combien, 300-400 visiteurs sur le site qui n'était pas encore fini. Enfin, il y avait juste, j'avais préparé le visuel juste du site. Mais derrière, ce n'était pas préparé encore sur le niveau du process.
Tu ne pouvais pas encore acheter ?
Tu ne pouvais pas encore acheter, non, je n'avais pas prévu le truc. En fait, je n'avais même pas encore de Père Noël. J'ai ensuite lancé le recrutement. Et du coup, là, j'ai trouvé un gars qui me l'a fait. Avec qui j'ai fait les premiers tests. J'ai trouvé une personne qui était influenceuse famille, donc elle qui m'a fait, Aurélie, qui m'a fait vraiment gagner du temps. Elle avait, tu vois, 40 000 abonnés sur Instagram, 50 000 sur Facebook, mais surtout, elle avait un gros réseau dans le domaine des influenceuses famille.
Donc, elle a fait quoi pour toi ?
Bah, elle m'a fait rentrer directement dans le milieu des influenceuses mamans. Elle m'a fait gérer les réseaux sociaux. Donc moi je suis pas trop créateur de contenu et puis gestion de réseaux sociaux, tu vois. Elle a été community manager freelance, du coup elle m'a fait à destination, voilà, des familles, donc c'était parfaitement ce qu'il me fallait. Moi je m'étais inventé déjà, j'avais déjà prévu un plan pour mes réseaux sociaux, mais finalement après avoir discuté avec elle, elle m'a montré comme quoi je me plantais, et puis finalement j'ai investi avec elle. Je lui ai dit bah vas-y, tu t'occupes de mes réseaux et puis tu t'occupes du marketing d'influence. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire.
Donc, ça te fait un coût supplémentaire. Au final, tu avais un objectif particulier en tête. C'était quoi ton idée de ce que ça allait donner au final? Comment est-ce que tu réfléchissais à ton retour sur investissement? Parce qu'en fait, tu dois investir pendant tout ce temps, mais la saison, elle dure qu'en gros 2 mois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Donc, tu ne peux pas vraiment savoir avant d'arriver à ce moment-là si ça va marcher ou pas, parce que personne ne veut acheter ça en septembre. Donc, c'était quoi ton objectif ou la vision que tu avais en tête de ce que ça pouvait donner le moment venu?
Bah, je regardais, tu vois, par rapport aux recherches Google, les recherches Google sur vidéo Père Noël, appel vidéo, etc. C'était, on va dire, juste après Halloween, donc 1er novembre. Quoi. Donc, moi, j'avais tablé sur 1er novembre. En gros, j'avais fait la première. Au début, j'avais prévu de faire un gros buzz tout début novembre en sortant le truc. Je me suis dit, c'est trop tard. Si je veux me positionner sur Google et être sûr que je suis le premier à en parler, bah, il faut que je le fasse avant, d'où le salon. Et puis après, je me suis dit, je vais faire vraiment une deuxième sortie, si tu veux. Donc là, je m'étais bien ancré sur Google, j'étais premier, etc. Et puis ensuite, j'ai préparé ma presse. Et puis ensuite, j'ai fait une sortie publique. Et là, la sortie publique, c'était un gros coup avec plein d'influenceurs et puis envoi de communiqués de presse massif à toute la presse que j'avais recensée, plus de la presse que j'avais rencontrée et la presse que j'avais recensée ensuite sur spécialisée et plus généraliste.
Mais du coup, c'était quoi ton objectif ? Tu l'avais quantifié ?
En fait, c'était très compliqué d'avoir un objectif, quoi. Je m'étais dit entre 1000 et 10 000.
Okay.
En gros, je m'étais dit...
Donc, tu as voilà. été dedans, quand tu as été dans la fourchette avec un peu plus de 2000 visios qui ont été bookés.
Et c'est ça. Et puis, en fait, après, j'ai assez vite été dedans. Je m'étais mis un objectif 3000. J'étais bon. J'étais bon dans le truc parce que j'ai fait plus de 2000. Quoi. Donc ça s'est bien fini dans ce sens-là. Sauf que je m'étais dit, ça va faire du... Mon objectif, c'était vraiment de faire le buzz. Je savais qu'il y avait un sujet buzz. Et puis, je savais que les entreprises, enfin la presse, allaient avoir à parler de Noël et du Covid. Et genre, qu'est-ce que Noël va changer, comment Noël va être changé par rapport au Covid, qu'est-ce qu'il va y avoir. Je m'étais dit, il faut que je profite de ce truc-là. J'avais anticipé ce truc-là. Je me suis dit, il y a vraiment un buzz à faire. Donc, moi, je visais le buzz. Je ne savais pas si j'allais récupérer le buzz. Au final, je l'ai eu. Ça m'a parlé partout. On a fait presque toutes les chaînes de télé connues, à la radio, mais non.
Parce que sur ton site, tu as TF1, Énergie, Huffington Post, France Info, France Bleu, Virgin, LCI, France 2, France Inter. Enfin, tu as vraiment fait énormément de médias parce qu'en fait, tu avais l'histoire qu'eux, ils avaient envie de raconter. Tu avais un truc assez packagé, ils pouvaient faire un petit reportage, c'est cute, il y a des enfants. Ça rentre dans le topic de Noël qu'on leur a demandé de faire, ça rentre dans le topic du Covid qu'on leur a demandé de faire. Donc finalement, tu es un peu à l'intersection de... Tu réponds aux besoins en fait, du journaliste qui a besoin d'avoir une histoire qui rentre un peu dans ces cases-là. Et toi, tu es l'histoire parfaite. Donc finalement, ils ont envie en fait, de te couvrir. Et si tu peux leur pré-mâcher un minimum le truc pour qu'eux, ils aient une bonne histoire à raconter. Ils ont envie de parler de toi.
Exactement, ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, je m'étais préparé mon truc, mon storytelling. Alors, j'avais préparé tout mon truc, mon histoire que j'allais raconter à la presse, etc. Dans l'espoir qu'ils allaient venir vers moi. Et puis, finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils racontaient ce qu'ils avaient envie de raconter. Donc, ce qui les intéressait, c'était le concept. Et puis, en fait, chacun percevait le concept comme il en avait envie. Donc, certains m'ont dit, oh, c'est super. Enfin, ils ne me le disaient pas forcément moi, parce qu'ils m'appelaient pour récupérer quelques infos, mais ensuite, ils racontaient vraiment l'histoire qu'ils voulaient. Ça, j'ai découvert vraiment le truc de la presse qui en fait un petit peu à sa tête. Il te pose des questions, et puis finalement, ils ne disent pas forcément ce sur quoi tu as discuté.
Mais du coup, qu'est-ce qu'ils racontaient? En quoi est-ce qu'ils pouvaient diverger de l'histoire que toi tu racontes? Parce que ton histoire, elle est assez simple à comprendre, elle est assez évidente. En quoi est-ce qu'ils arrivaient à diverger de manière radicale de... C'est un truc pour appeler ton Père Noël en visio, et donc c'est le Covid, et donc c'est marrant.
Il y en a qui m'ont, ouais, mais il y en a qui m'ont cassé grave, par exemple. Je le dis, la plupart étaient vraiment super. Donc les premiers qui m'ont suivi, c'était Journal des Femmes. Eux, c'était super, ils m'ont fait un super article. Après, il y a M6 qui m'ont fait un super truc. Il y en a France 2, super aussi. Ils sont venus voir les gens. Ils m'ont posé des questions par téléphone pour savoir exactement comment ça se passait. Ils sont venus ensuite chez les gens. J'ai organisé une visite. Du coup, chez un client qui était déjà prévu, ils sont venus derrière, ils ont filmé derrière les enfants pour voir comment ça se passait, poser des questions aux parents. Et puis ben voilà, là, c'était vraiment du pur extrait de comment ça se passe, plus un avis client. Donc, c'est la réalité. Et puis après, derrière, tu as des radios que j'écoute moi-même pourtant. Mais si tu fais gaffe, ils tapent toujours de toute façon sur les entrepreneurs et sur les entreprises. Donc, il fallait un peu s'en douter. Ils m'ont même pas appelé. Et puis en fait, ils ont dit... Ils ont cassé le truc en disant « Cette année, vous pouvez appeler le Père Noël en visio, ça coûte 20 euros. Et après, en plus de ça, vous pouvez avoir l'enregistrement de la visio qui coûte 20 euros supplémentaires, ça fait 40 euros. » Alors que c'est pas vrai. C'est bullshit complet. Ça coûte 14,90 plus 5 euros si vous voulez l'enregistrement. Ouais. Donc, ça coûte 20 euros au total. Et eux, ils racontaient comme quoi ça coûtait 40 euros à la radio. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils racontent des conneries. J'avais envie de leur dire, mais non. Mais une fois que c'est dit, bah, ils ont une force de communication, tu peux pas les contredire, quoi.
Ok.
Mais ouais, ça fait un peu mal derrière quand tu dis bah non. Il y en a d'autres derrière qui m'ont appelé pendant un moment, franchement, de mi-novembre jusqu'à mi-décembre. J'avais un journaliste presque au téléphone tous les jours, quoi. Ça partait du petit journal local jusqu'à TF1, mais j'en avais presque tous les jours. Et il y en a un qui m'a appelé en me disant « Ça va, vous êtes un petit peu le Uber des Pères Noël, du coup ça fait quoi en gros d'exploiter des pauvres Pères Noël ?» Puis après je lui dis « Non mais attendez, je lui dis vous êtes travaillé pour qui vous ?» Et il ne voulait pas me dire, il me dit non. Et puis en fait, j'ai appris que il m'a dit derrière que c'était un indépendant, tu vois. Donc, il essayait de créer un sujet pour après, derrière, le revendre à des gens, à des médias. Et puis, je lui dis non, mais votre truc, ça ne tient pas. Là, vous essayez de me faire passer pour la grosse boîte. Je lui dis, je suis un petit entrepreneur qui embauche des personnes, des animateurs qui sont... auto-entrepreneurs, eux, et qui ne travaillent pas, ils sont chez eux et ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et moi, au contraire, je leur amène la possibilité de faire de bosser de chez eux en visio, quoi. Alors qu'ils imaginaient que leur saison était complètement foutue. Ah ouais, et là, il s'est rendu compte que son truc, il tenait plus debout. Et finalement, il a jamais.
Je suis sûr qu'il y a des médias qui auraient réussi à monter ce truc et à te monter un truc.
C'est sûr.
Après, S'ils peuvent dire un truc qui est factuellement absurde, de dire ton truc qui coûte 40 euros, en fait, tu sais, la personne, le gars, il a jamais été voir ton site. Hein. Il a eu un papier qui a marqué 20 euros et en plus, il faut payer l'enregistrement. C'était pas expliqué de manière entièrement claire sur le truc. Lui, il l'a interprété de la manière dont il voulait. Ouais. Et au final, ils s'en foutent parce que, à moins que tu ailles engager un avocat pour leur faire un procès, ils peuvent raconter l'histoire, tu vois, qui correspond à ce qu'ils ont envie de raconter. Donc, s'ils ont envie de se moquer, ils se moquent. Et s'ils ont envie de dire que t'es un sale entrepreneur, ils diront que t'es un sale entrepreneur et. Why not, tu vois? Même si ça tient pas debout, ils le
trouvent. Exactement.
Mais globalement, finalement, quand tu pars de zéro, il vaut mieux avoir des gens qui parlent de toi qui n'en parlent pas. Surtout parce qu'ici, je suppose que dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est un truc que je ne sais pas, mais si un article comme ça, il est publié, est-ce qu'il y a un lien vers ton site? Ce lien-là, il est follow? Est-ce que ça te fait du référencement derrière? Comment ça marche?
Bah, l'objectif, c'était ça, en fait. L'objectif, c'était vraiment de faire un maximum de presse pour faire en sorte qu'ils parlent de moi. Et puis, j'ai fait un maximum de communiqués de presse pour, je veux dire, tôt, quoi, dès le mois de septembre, octobre. Mais en fait, ils répondaient pas, ils réagissaient pas assez tôt. Et c'est vraiment à partir du mois de novembre où là, ça a explosé. Et puis, il y en a que j'ai contacté moi-même qui sont revenus vers moi, mais très, très peu. Et puis finalement, en fait, c'est ils voyaient que ça parlait, et du coup, ils allaient vers moi. Donc, allez, il y en a la moitié des articles ou des passages télé ou radio à qui j'ai vraiment parlé, et qui, à ce moment-là, ceux à qui j'ai vraiment parlé, la plupart du temps, ils mettaient vraiment le nom du site, parfois en follow. Du coup, hein, quand ça passe en follow, c'est excellent. Ils mettaient souvent la vidéo de présentation du site directement sur leur article pour présenter le truc. Donc, ça, c'est cool.
Ouais, donc ça c'était
Ouais.
excellent
Et
pour toi.
puis, du coup, en fait, quasi systématiquement, quand même, il y avait le nom du site. Voilà, il y avait visiopernoel.com qui arrivait, mais pas toujours. Et pas souvent en follow, mais quand même. L'intérêt, quand même, c'est qu'il y ait le nom du site et derrière, ça fait du référent, tu vois, que sur Analytics, je voyais que ça venait de chez eux, quoi. Mais finalement, ce qui m'a rapporté le plus de visites en direct, c'est les sites spécialisés, c'est-à-dire bah voilà, c'est les sites à les blogs à des gros blogs à destination maman. Voilà, il y en a quelques-uns, Magic Maman, Teta Model.
Donc ça, c'est ce que tu as appelé tout à l'heure les influenceurs.
Non, ça c'est des blogs spécialisés,
D'accord.
donc je les inclus dans la presse. Eux, c'est
OK.
ceux à qui j'ai envoyé des communiqués de presse. Et par contre, après, ça c'est en gros, moi j'ai récupéré de la visite, même des clients. Trois blocs, on va dire. J'ai eu les influenceurs, donc Instagram, principalement Instagram, Facebook. J'ai eu la presse, donc TF1, France 2, les magazines spécialisés, voilà, le journal des femmes, tout ça. Et puis après, les visites Google, voilà, recherche Google, les gens qui tapaient Visio ou Apple Vidéo, etc., et bouche à oreille, quand j'ai.
Donc, si on récapitule sur le référencement, il y avait des recherches, il n'y avait pas trop de sites. Toi, tu t'es positionné assez tôt sur le marché, tu as fait des articles SEO, etc. Tu t'es positionné. Sur la presse, on a vu que l'histoire a catché l'attention des gens et surtout, ils se sont tous plus ou moins copiés les uns les autres. Quand ça a commencé à parler, les autres ont récupéré les histoires et
C'est ça.
finalement, c'est même plus que les communiqués de presse, c'est le fait que certaines personnes dans la presse ont commencé à en parler qui a invité d'autres personnes à en parler. Et maintenant, on peut parler des influenceurs. Donc, traditionnellement, les influenceurs, c'est des campagnes qui sont payées. Dans ton cas, c'était comment ces campagnes influenceurs et Instagram?
Donc là, pareil, en fait, j'ai joué l'opportuniste. En fait, cette idée-là, elle était vraiment tournée sur ce truc-là d'innovation et de fun et du fait que ce soit adapté à la période. Et donc, on a vraiment profité de ça. J'avais vraiment dans l'idée de faire le buzz, et puis il y avait moyen, en fait, que ça fasse le buzz. Du coup, au niveau de la presse, donc ils ont parlé du site grâce à ça. Et puis au niveau des influenceurs, donc je les ai contactés via, du coup, Aurélie, qui s'occupait du community management et qui avait déjà un réseau d'influenceurs. Et donc, arrivé toute fin octobre, on a organisé ça. Donc, on a contacté plusieurs influenceuses qui voulaient bien faire le test du concept. Donc là, c'était le moment le plus stressant de tout le projet. J'avais tout investi. Donc voilà, 90% de ce que j'avais déjà dépensé, c'était déjà mis sur la table. Du coup, on les a contactés et puis on leur a dit, voilà, est-ce que vous voulez bien faire un essai, tester le concept gratuitement, et puis après vous en parler si ça vous a plu, quoi. Donc à ce moment-là, on en a pas mal qui ont accepté. Elles ont fait le test, story en direct story sur Instagram. Elles ont filmé le truc et puis elles ont toutes posté la même journée, c'était le même dimanche, je crois que c'était dimanche 9 novembre, quelque chose comme ça. Et elles ont toutes testé. Retour de tout le monde, c'était la journée hyper stressante, mais vraiment révélatrice. Elles ont fait, après, je regardais toute la journée les retours des influenceuses qui disaient, bah, on a adoré, c'était super, les enfants étaient super contents, super concept, allez-y, faites-le. Et puis en même temps, j'ai lâché un code promo de lancement. Et puis là, en un week-end, en fait, j'ai pris vraiment 10% de tout ce que j'ai pris après sur toute la saison, quoi. Donc, en gros, j'ai pris 250 réservations, comme ça, sur le week-end.
Et elles avaient un code promo, ça leur donnait une commission. Est-ce qu'elles avaient eux un retour derrière?
Non, 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 l'intérêt, bah après, c'est l'intérêt des influenceurs sur Instagram, en tout cas, c'est se faire connaître auprès de nouveaux et puis d'apporter de la valeur aussi à leur communauté via des codes, via des bons plans et des réductions. Du coup, derrière, les influenceurs disent, ah, bah, j'ai trouvé il y a du bouche à oreille entre les copines dans la communauté des mamans quoi, qui sont sur Instagram. Elles en parlent à leurs amis en disant, regarde, j'ai trouvé ce code promo-là en suivant telle influenceuse. Vas-y, connecte-toi à elle et puis profite de ça, quoi. Elle donne des super bons plans, etc. Et du coup, en fait, ça a marché comme ça. Et elles ont été super demandeuses. Et derrière, en fait, bah, pareil, communauté des mamans. Des influenceuses mamans sont souvent ensemble. Du coup, elles se suivent les unes les autres, et puis en fait, elles ont vu comme quoi il y avait ce concept qui existait là, et puis bah, elles ont vu que c'était excellent, donc elles ont voulu essayer, quoi. Du coup, moi, j'ai eu la révélation comme quoi le concept était bien, validé, etc. Ce sur quoi j'avais bossé en amont, le process de réservation était fluide, de commande et tout ça. Le process d'arriver à la visio et puis l'animation était cool. Ils ont reçu la vidéo derrière et ils ont adoré, quoi. Donc tout était validé et ça a accroché au niveau des parents et des enfants parce qu'il y a deux choses. Voilà, s'il faut convaincre les parents, il faut convaincre les enfants aussi derrière.
Yes.
Et du coup, bah, voilà, combo parfait, c'était nickel. Donc, concept validé à ce moment-là, quoi, tout début novembre.
Du coup, si tu devais classer tes trois canaux, le SEO, la presse et les influenceurs, par l'ordre de lequel t'as apporté le plus et lequel t'as apporté le moins, ça serait quoi en gros l'ordre?
Ce qui est fou, c'est de se dire que tout réuni, j'aurais jamais imaginé. En fait, j'aurais jamais imaginé faire autant, que ça fasse autant le buzz. Je savais que ça allait faire le buzz, c'est parce que c'était le but, c'est ce que je recherchais. Mais j'aurais jamais imaginé que ça fasse autant le buzz, surtout plutôt sur la presse. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que TF1, France 2, France 3, Arte, M6, plus Journal des femmes, etc., plus tout ça, m'ont rapporté autant de visites et de réservations que Instagram. Toute la presse réunie m'ont apporté autant de réservations qu'Instagram, à ce que j'en estime, tu vois. Mais en gros, c'est mes deux gros canaux. Et puis après, bah, il y a la recherche, mes deux bouche à oreille, etc. Tiens, j'ai fait ça, c'était super sympa.
Donc c'était les deux qui étaient les deux plus gros.
Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai tenté un peu de parrainage derrière, ça n'a pas accroché comme je voudrais parce que c'est pas assez cher, en fait. Et puis le système dans mon truc, ça ne correspond pas exactement.
Donc dans ce cas-là, ça serait t'invites quelqu'un et tu récupères 5 € sur l'invitation, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, mais
Ouais.
finalement,
C'est pas assez
enfin.
pour que les gens aient envie de se bouger pour récupérer 5 € et ça correspond pas trop à l'esprit de Noël, ce qui fait que les gens peuvent se sentir un peu mal à l'aise à recommander quelque chose à quelqu'un pour récupérer 5 € derrière. Peut-être qu'il y a peut-être une autre manière d'avoir une boucle de viralité, soit en trouvant une manière d'inciter les gens à partager. Par exemple, une idée qui me vient là, est-ce que tu pourrais pas faire donner aux gens une vidéo genre de 1 minute, tu vois, cutée, montée de ce qu'ils ont fait pour la partager plus facilement en story sur Instagram ou sur les réseaux, un truc comme ça, tu vois, peut-être une boucle de viralité plus organique qui se base plus sur j'ai partagé, il y a une petite watermark et j'ai une manière de partager mon expérience avec les gens.
C'est exactement ce que je voulais faire.
Ok.
J'y pensais parce que je me disais, les gens ne voulaient pas, ou alors tu sais, je voulais faire des best-of, tu vois, les meilleurs moments, tu vois. Mais derrière, ça demande vachement de temps de montage et je n'avais pas le temps de gérer tout ça. Et je me disais, mais comment on pourrait faire en sorte d'avoir un extrait, un petit truc qui soit facilement partageable avec, voilà, comme tu dis, un filigrane, tu remarques, Visio Père Noël dessus, venez réserver votre visio à votre tour sur Visio Père Noël. Mais le truc, c'est que bah, voilà, ça, j'arrivais pas à le faire automatiser, ce truc-là. Et beaucoup de choses sont automatisées. Et puis.
C'est clair que pour un tarif de 20 euros, il faut que ça soit automatisé,
Bah ouais, c'est
sinon
ça.
ça pourra jamais fonctionner.
Ça. Ou alors une image, il faudrait que ce soit une capture d'écran automatique
Ouais.
ou quelque chose comme ça. Après, il y a des histoires de RGPD aussi, donc tu vois, enfin, je me suis penché un petit peu sur le sujet. Je m'étais dit que j'allais me pencher un peu plus sur le sujet l'année prochaine. Donc, je vais voir. J'ai plusieurs idées pour l'année prochaine, je vois.
Ouais, c'est clairement une idée. En gros, l'idée, le concept ici qu'il faut que tu trouves à élucider, c'est comment est-ce que je développe une boucle de viralité où quand les gens ont suivi mon service, ils ont une manière facile de partager, d'en parler. Voilà. Si c'est pas un parrainage, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt financier particulier à le faire, ils ont un intérêt plus émotionnel de partager l'expérience qu'ils ont eue avec leurs enfants, avec leur entourage.
C'est ça. J'ai tenté des hashtags aussi, des trucs type hashtag, mais finalement, hashtag, c'est bien pour Twitter, mais après, pour le reste, c'est quand même assez peu utilisé. J'ai tenté du hashtag, taper un hashtag, hashtag Visite au Père Noël, et puis avec votre recommandation, et puis derrière, on fait un concours pour gagner une tablette. Donc, il y en a qui ont réagi, mais ça n'a pas non plus réagi.
Ouais. D'un point de vue de la structuration du type, j'ai vu que tu avais d'autres petits aspects. Tu avais un aspect de carte cadeau, tu avais aussi un aspect où tu ciblais les comités d'entreprise. Ça a été des trucs qui ont été significatifs, ou est-ce que c'était plus des tests? Est-ce que ça a abouti, ce genre de,
non, ça a bien marché,
de modalité d'achat, on va dire?
Ça a bien, ouais, marché.
Lequel a le mieux marché?
Comité d'entreprise. Les deux ont bien marché.
Ok.
Vraiment, parce que c'est le genre de...
Ce comité d'entreprise, ça peut être un truc énorme. Ça peut vraiment scaler énormément sur les années à venir.
Bah, on a, exactement. Donc ça, c'est l'objectif pour la suite. Mais donc vraiment taper sur les comités d'entreprise, surtout qu'on a fait plusieurs comités d'entreprise, 6 ou 7, pour lesquels on a du coup offert des cartes cadeaux. Ils ont offert des cartes cadeaux et ça a super bien marché, quoi. Même les gens qui n'étaient pas demandeurs, c'était ça la question, c'est est-ce que ceux qui ne sont pas demandeurs vont quand même veulent le faire et vont l'accepter. Et finalement, ouais, ça a bien été le cas. Ils ont vraiment bien réagi. Les parents d'enfants, du coup, de jeunes enfants qui ont reçu, qui faisaient partie de cette entreprise-là, qui ont reçu une carte cadeau, finalement, derrière, l'ont fait et ils ont adoré. Et puis, ils me laissaient des super avis. Donc, ils faisaient ensuite le retour au comité, au secrétariat du comité d'entreprise. Et ils adoraient aussi. Du coup, j'avais un super retour des CSE. Donc, je pense que je vais avoir pas mal de retours déjà des personnes à qui on a bossé. Et puis, je vais démarcher des nouveaux aussi, quoi. Mais ouais, ça, c'est clairement un axe de développement et qui est même encore plus important que les personnes directes. En fait, c'est énorme.
Ouais, clairement. Je pense que là, parce que le problème que tu as, c'est qu'il faut que tu vendes un produit qui ne coûte pas extrêmement cher, que les gens vont pas racheter à une fréquence énorme. Donc, c'est des petites ventes qui peuvent se faire qu'une fois par an. D'un point de vue marketing, ça pose pas mal de difficultés. Ouais. Ça change entièrement si tu peux vendre tout d'un coup 100 ou plus à un comité d'entreprise qui va acheter un pack. D'un coup, tu peux mettre des ressources marketing et pusher. C'est quoi le plus gros que tu as vendu, par exemple?
On a fait des grosses boîtes. On a fait Crédit Agricole et puis une autre grosse boîte. On a fait 600 et quelques et puis 400. Quoi. Et après, d'autres à coup de 100, 200. Quoi. Donc, c'est énorme.
C'est énorme. Ouais. Donc, ça commence à être des tickets intéressants qui peuvent te permettre de pusher un élément marketing. C'est aussi des boîtes qui, à mon avis, sont pas dans l'innovation constante. Donc, si une fois que tu es rentré dans leur truc, tous les ans, tu peux retoquer et dire l'an dernier, vous en avez pris 600, cette année, vous m'en reprenez 600 et ils vont pas vraiment avoir de raison de bouger ou de changer tant que les gens restent contents. Donc, ça, à mon avis, c'est effectivement un très, très bon levier, quoi.
Surtout que j'ai traqué vraiment les avis. Systématiquement, j'envoyais la demande d'avis du coup dès le lendemain pour m'assurer que ça se passait bien. Et puis, sans filtrer hein, quoi que ce soit, dès le lendemain, ils recevaient tous les 2000 et quelques ont reçu une demande d'avis et ça a pris 4,7 sur 5.
Donc les gens étaient contents.
Ils étaient très contents. Surtout que j'ai fait. Incluant une grosse erreur de ma part au début. Je suis passé par un système, un organisme indépendant de demande d'avis, tu sais, sur lequel une fois que tu as l'avis, ouais, après c'est terminé, quoi, tu peux pas revenir dessus. Et en fait, au début, j'ai fait l'erreur d'envoyer l'avis le lendemain de la réservation. Donc, ils n'avaient pas encore fait leur visio. Okay, et ça leur demandait, alors comment ça s'est passé, votre visio? Et ça, c'est une erreur de process. Sauf que ça a été fatal, ouais, parce que je me suis pris des 4 ou 5 une étoile dès le tout début. En disant la vision n'est pas encore passée, c'est une arnaque ou quoi? Et là, je me dis non, c'est pas possible. Et du coup, bah, c'était des histoires de process qui peuvent tout gâcher, quoi. C'est fou. Du coup, les gens voyaient des mauvais avis. Ils se disaient c'est quoi ça? Après, ils regardaient vraiment ce que c'était, le commentaire de l'avis. Ils disaient ah bon, ça va, si c'est juste ça, c'est bon. Mais du coup, ça fait mal, quoi. Mm. Mais malgré ça, du coup, on a quand même des super avis. Donc, ça veut dire que le truc a fait carton, quoi.
Du coup, t'as eu une bonne saison pour une première année. T'as eu plus de 2000 personnes. Les gens sont contents. T'as 4,7 de moyenne. T'as eu 10 Pères Noël qui ont fait des visios. C'est quoi le retour de ça que toi, tu as donc déjà, j'ai checké ton LinkedIn et j'ai l'impression que du coup, tu es passé full-time sur ce projet ou comment
ouais,
ça s'est passé pour toi suite à ces résultats?
Ouais, en fait, j'ai passé full-time même juste à la fin du projet. Ça m'a pris énormément de temps, d'énergie. J'étais en chômage partiel parce que j'étais responsable en commerce international dans le domaine du sport. Du coup, commerce international, déjà, ça a pris une claque avec le Covid. Plus de déplacements à l'étranger. Et le sport aussi, ça a pris une claque. Et le sport dans le monde entier, nous, on se disait, bon, peut-être qu'il va y toujours y avoir quelques pays qui vont continuer à tourner. Et puis finalement, ouais, le sport dans le monde entier a pris une grosse claque. Du coup, ça, j'avais beaucoup de chômage partiel. Au début, il fallait quand même pousser le truc, mais finalement, j'avais beaucoup de chômage partiel. Donc, ça m'a permis de bosser à fond sur mon projet. Ça, c'était une opportunité pour moi de développer le truc. Je pense que si j'avais pas eu ça, c'était mort. J'aurais jamais pu faire Visio Père Noël jusqu'au bout. Mais du coup, j'ai eu du temps pour développer tout ça pendant mon chômage partiel. Et puis après, je m'étais arrangé avec mon patron pour me libérer finalement sur les 2-3 derniers mois, voyant que ça commençait à prendre mon projet. Et puis finalement, il y a eu une demande de comment, un plan de départ volontaire. Et je me suis porté volontaire pour partir.
Ok. Ouais.
Donc voilà.
Donc t'es passé à plein temps sur ce projet-là. Mais du coup,
pile
j'imagine
au
que
moment
c'est pas
où il fallait.
Ouais, c'est pas une position super facile du coup à être pour toi parce que c'est tellement saisonnier. Donc finalement, tu es là en disant faut que je passe les 10 prochains mois à préparer la prochaine saison. Quoi.
Bah, après, tu doutes bien, je vais tenter autre chose parce que j'ai développé quand même une bonne carte compétence de web marketing. Et j'ai toujours fait, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai commencé en porte-à-porte, phoning dans l'annuaire, tu vois, vraiment commercial, prospecteur, tu vois. Et, je faisais des foires et tout ça. Et puis après, je me suis mis dans le commerce international, donc B2B, voilà. Et puis, mais toujours voilà, dans la vente, le marketing, sous différentes formes. Et puis après, je me suis lancé du coup à fond sur. Je touchais déjà un petit peu au web, mais je me suis lancé à fond sur le web marketing avec Visio Père Noël. Et là, j'ai découvert tout un tas de choses. En fait, je pensais, je voyais le truc voilà, énorme de web marketing. Et puis en fait, petit à petit, étape par étape, j'ai acquis tout un tas de compétences dans ce domaine-là, de création de sites web, etc., de gestion du site.
Donc, tu travailles dans d'autres projets sur le web marketing. Tu veux en parler ou c'est encore trop tôt?
Donc là, je suis en train de voir parce que j'ai développé du coup une communauté, voilà, une petite communauté de parents qui veulent faire plaisir à leurs jeunes enfants. Donc je suis en train de voir pour potentiellement diversifier cette partie-là parce que dans la logique, je pense que tu vas me dire, mais le plus logique, c'est quand tu commences à travailler avec une communauté et que tu as une bonne image, c'est d'exploiter ce truc-là. Ouais.
Donc, leur proposer d'autres produits ouais. Tout au long de l'année, de voir s'il n'y a pas une manière d'étendre ce raisonnement et de faire d'autres activités, je suppose, en visio pour les enfants à différentes périodes de l'année qui sont peut-être moins saisonniers, mais qui te permet de faire plus levier sur cette base de clients et aussi que les gens restent, se souviennent de toi pour l'année prochaine.
Bon, il y a ça, ouais. Et puis il faut de toute façon que je trouve à diversifier mon activité à partir de cette communauté-là. Du coup, je travaille sur différents trucs. J'ai pas envie de sortir un projet, un service qui est pas forcément abouti et qui soit pas aussi excitant que Visio Père Noël. Du coup, je suis en train de travailler sur différentes choses. J'ai laissé tomber plusieurs qui finalement, soit c'était excitant, mais ça n'avait rapporté que dalle, ou alors ça se reposait sur la compétence de une ou deux ou trois personnes qui finalement ne pouvaient pas répondre à tout le monde. Tu vois, je veux aussi un truc qui va durer après le Covid. Je veux pas un truc qui va remplacer juste cette période-là et puis que dans 3 mois finalement c'est terminé quoi, sur lequel je vais communiquer à fond et puis dans 3 mois c'est terminé parce que ça sera plus pertinent, les gens préféreront le faire en réel, alors que là je sais que Visio Père Noël c'est un truc qui restera même après le Covid, c'était déjà une bonne idée avant le Covid et ça restera une bonne idée après donc je pense que il faut quand même un truc qui soit pérenne. Si je prends tout ce temps de développer, de faire le site et de le marketer, il faut quand même que ça reste derrière. Du coup, il faut vraiment l'idée, donc il faut un peu, je pense, de la technologie. Donc là, je suis en train de rechercher des process un peu plus techniques qui vont me permettre d'apporter un peu de fun en visio ou alors voilà, d'interaction grâce voilà, à des nouveaux process technologiques. J'ai quelques petites pistes, j'ai semé quelques graines par-ci par-là, mais j'ai encore rien de défini.
Et du coup, pour l'année prochaine, est-ce que tu flippes un peu de te dire bah, cette année j'ai été le premier, mais j'ai fait toute la presse, tout le monde en a entendu parler, il y aura plein de concurrents qui vont venir. Est-ce que c'est une question que tu te poses? Est-ce que tu te dis que tu as un avantage d'être le premier? Comment est-ce que tu réfléchis à l'année prochaine et à la préparation de cette saison s'il y a beaucoup de gens qui ont maintenant entendu parler du projet et qui se disent je vais peut-être me lancer, ça n'a pas l'air trop compliqué?
Ouais, tu veux bien en parler, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est un truc. En fait, dès début septembre, du coup, j'en ai parlé. Et puis, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des nouveaux des concurrents.
Okay.
Et en fait, là, j'ai compté l'autre jour. Il y en a, juste en tapant Visio Père Noël sur Google, j'en recense 13 ou 14 concurrents. Okay. qui ont fait exactement ouais. La même chose. Et il y en a qui ont fait le site, qui ont essayé de faire le site, mais exactement le même quoi. Donc il y a les animateurs, ceux qui font des animations habituellement, qui sont tout seuls, qui ont fait des petits sites, mais bah, pas forcément terribles, ou alors voilà, c'est pas des communicants quoi, donc c'est pas leur boulot. Et après il y a des agences de com qui l'ont fait aussi, mais c'était trop tard. Ils ont fait le truc, sur Google, c'est winner gets all. C'est le premier, il récupère 9 sur 10, et puis après, les autres récupèrent des miettes. Sauf que mon projet, là, ça fonctionne que si tu arrives à enchaîner. Si tu as une visio à 21h, enfin à 19h, et tu en as une autre à 20h30, et puis une autre le lendemain matin, ça marche pas. Parce que les mecs, ils sont derrière, sinon habillés au Père Noël, ils attendent leur réservation, ça va pas, ouais. Ça peut pas marcher. Alors que moi, du coup, les gars, là, ils enchaînaient, ils se libéraient 4 heures dans la journée, ils avaient leurs 4 heures qui étaient remplies, quoi. Et puis derrière, ils enchaînaient toutes les 15 minutes, ils faisaient leur visio, c'était super simple. Ouais. Et là, c'est là que le business model est pertinent. En fait.
Ouais, et c'est pas si facile à répliquer parce que, évidemment, les gens qui arrivent et qui sont des MeToo, ils peuvent pas avoir des news dans la presse de la manière dont toi tu l'as eu, puisque bah, ils sont pas les premiers, ça a déjà été dit, ça a déjà été fait. Ils ont peut-être un désavantage sur Google de t'as été le premier, t'as eu tous les liens sur les sites spécialisés, dans les blogs, etc. Donc t'as un avantage là-dessus. Et du coup, ça leur pose un problème en termes de business model parce qu'ils peuvent pas non plus, s'ils font 10% de ton volume, potentiellement, ils ne peuvent pas opérer parce qu'ils ont pas ils peuvent pas occuper les gens à plein temps. Donc, potentiellement, tu as quand même un avantage compétitif qui est là.
Exactement.
Tu as un an pour continuer à construire le truc. Tu as probablement, effectivement, tout l'intérêt et tout le sens de te diversifier et de comprendre ce que tu peux faire d'autre et comment est-ce que tu peux utiliser ces idées que tu as eues sur un business qui peut tourner toute l'année ou sur d'autres manières de monétiser la liste des personnes que tu as. Et revenir l'année suivante et je pense aussi construire ces relations avec les comités d'entreprise etc. qui vont à mon avis sur le long terme être un actif majeur de pérennité du truc quoi. Si chaque année tu arrives et tu dis j'ai X dizaines de milliers d'euros qui sont garantis au comité d'entreprise et qui tombent chaque année, là tu commences vraiment à parler, à avoir une grosse base solide sur laquelle te reposer.
Ouais, c'est ça. Et puis après il y a plusieurs choses qui me rassurent pour l'année prochaine. C'est bah, le fait que tout le monde était content, donc ça a été cool, c'est-à-dire que moi je suis content parce que ça a marché et puis j'ai largement rentabilisé mon investissement. Les parents étaient contents, les enfants aussi, et puis les Pères Noël aussi, ils étaient contents. Je m'étais dit avant le projet, je me disais il va y avoir un déçu, j'ai peur, j'ai été presque sûr qu'il allait avoir un déçu, soit moi, soit les clients, soit les prestataires. Je me disais qu'il allait avoir un déçu. Mais finalement, tu vois, tout le monde était content. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et puis, les parents, dans les avis, me disent systématiquement, pas systématiquement, mais très souvent, à l'année prochaine. Donc, on le refera l'année prochaine, c'est sûr. Donc, ça, c'est cool. Et puis voilà, après derrière, pareil pour les comités d'entreprise. Et puis, je vais m'appuyer, voilà. J'ai appris de mes erreurs, j'ai fait des conneries, mais que je vais pas refaire l'année prochaine. Donc, il y a des dépenses que je ferai pas l'année prochaine que j'ai fait cette année. Bah, beaucoup de dépenses que j'ai fait cette année, mais que je referai pas l'année prochaine. Et puis, j'investirai mieux mon argent. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros sur Google et Facebook, mal. Et puis maintenant, cette année, je pense que je ferais ça mieux. Ça, c'est vraiment des trucs. Parce que quand j'ai fait mon plan de com, l'année dernière, je m'étais dit, je note toutes les idées possibles et imaginables que je pouvais trouver pour faire ma communication du site, quoi. Donc, je me disais, alors la presse, influence, parrainage, la pub sur ça, ça. Et j'avais noté tout un tas de trucs. Et en fait, j'ai tout fait pour voir ce qui allait marcher. Maintenant, je sais.
Okay.
Et c'est un peu ça aussi le but.
Et tu sais qu'en fait, il y en a trois qui font tous tes résultats et que les autres, c'est de la diversification. Enfin, c'est de la perte de temps.
Ou alors mieux le faire.
Ouais. Après, il y a un sens où tu peux pas être bon partout. Quoi. Oui, je pense que si tu as déjà des canaux qui fonctionnent, le truc de te dire je vais devenir un magicien de Facebook Ads,
ouais,
c'est peut-être pas la priorité. Tu vois. Peut-être que finalement, vrai, tu te dis il vaut mieux marteler les comités d'entreprise où toi tu as une expérience de commercial, ou il vaut mieux marteler la presse où tu as déjà des contacts et le storytelling il a déjà été établi, ou les influenceurs où tu as déjà les relations. Tu vois. À mon avis, c'est aussi raisonnable de te dire je suis qu'une personne, j'ai pas une énorme équipe, je vais me concentrer sur ce qui est déjà prouvé, parce que ton marché il est probablement énorme, tu vois, de personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc finalement tu peux probablement, même sur les canaux que tu as déjà, continuer à scaler le truc et continuer à toucher plus de monde, surtout maintenant que tu as identifié là où tu dois consacrer ton énergie.
C'est ça, j'estime à environ 2 millions.
Ouais, 2 millions de personnes par an,
2 millions de potentiel marché, tu vois.
Ouais.
Du coup je me dis, imaginons si j'arrive à faire à terme, au bout de plusieurs années, 1%, c'est énorme. Ça fait 20 000.
Ouais.
Ça fait pas mal de prestataires derrière. Ça fait un bon truc à gérer. Parce que mon idée, elle est bonne, mais elle est moins bonne qu'un business comme le tien. Parce que toi, c'est déjà des tickets qui sont plus importants, plus chers. Et puis... derrière, c'est moins scalable. C'est quand même des humains qui sont derrière.
Il y a quand même des prestataires et des humains qu'il faut, ouais, que tu cales.
C'est ça. Et ouais, derrière, s'il y en a un qui me plante, du jour au lendemain, je suis un peu coincé. Du coup, c'est énormément de stress. Donc ça, c'était vraiment un truc difficile à gérer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stress. La première année, c'était très dur. J'ai énormément travaillé, franchement, de octobre à... Enfin, de septembre jusqu'à décembre. Fin décembre, j'ai énormément travaillé parce que je faisais presque tout seul. Et presque tout automatisé, mais presque tout seul. Et c'était quand même énormément de stress, parce qu'à partir du moment où il y a un bug sur Zoom, sur mon site, chez l'hébergeur, imaginons, ça brûle à Lyon, ça avait brûlé à Lyon comme en fin d'année, là, ça aurait été un truc comme ça, tu vois, c'est hyper compliqué, quoi. Dès qu'il y a un bug, un jour j'ai eu un bug sur le site. C'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Il y avait 5 prestataires qui étaient en cours, en train de faire des visios. Il y avait en gros 70 personnes qui attendaient leur visio, tu vois. Et j'ai fait un bug sur le site. Si le prestataire actualisait la page, ça frisait et il ne voyait plus ses rendez-vous. Et je me disais, mais s'il arrive quoi que ce soit, je suis coincé, quoi. Et derrière, ça m'est arrivé quelques fois où j'avais des dizaines de personnes qui m'appelaient en même temps, parce qu'ils appelaient au numéro d'urgence, au numéro du service client, et c'était moi, et qui m'appelait en même temps. Et là, c'est une panique énorme, parce que du coup, tu te retrouves avec tout un tas, t'imagines des dizaines de personnes qui sont énervées en même moment contre toi, contre ton site, et qui t'appellent, qui t'envoient des SMS. Et puis en plus, j'avais 3 ou 4 canaux pour me contacter, donc SMS, appel. Il y en a qui envoyaient des SMS, ouais. Le chat, Messenger, et puis email, tu vois, ils écrivaient tous en même temps. Et puis à partir du moment où il y a une réclamation, ils écrivent partout. Du coup, en fait, mon truc, c'était d'être présent, hyper présent partout, pour gérer tous ces services clients-là. Donc là, je pense que je vais me faire accompagner là-dessus, parce que si j'ai plus de clients, il va falloir que j'ai au moins quelqu'un qui gère ces trucs-là, au moins en période d'urgence, pour gérer ça, parce que derrière, c'est ce genre de business. S'il y a le moindre petit grain de sable dans le process, ça devient hyper compliqué. Vu que c'est de l'instantané, c'est de la magie. Et en fait, à partir du moment où tu dis, bah, il y a les enfants qui sont derrière, qui sont préparés, ils sont habillés pour en conséquence, et puis ils attendent leur truc, et finalement, ça ne se passe pas, alors là, ils te détestent, quoi. Tu passes du super service qui est hyper innovant, super sympa, merci, on vous adore, etc. Au truc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pourri la vie de, de mes enfants. Lui qui croyait, il adorait le Père Noël. Et c'est ça, c'était dur.
Donc, gros programme en perspective pour l'année prochaine, niveau marketing, niveau aussi opérationnel pour blinder tout ça. Je pense au niveau du support client et de la logistique, etc. Effectivement, je pense qu'il va te falloir quelqu'un qui va être posé là-dessus. Merci Alexandre d'être venu partager avec nous. C'était vachement intéressant de voir ton parcours et ton idée.
Ben merci à toi de m'avoir invité.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Je pense qu'il y a deux leçons qu'on peut retenir de l'histoire d'Alexandre. La première, c'est que ces concepts de marketing peuvent être appliqués dans beaucoup de domaines. Et ce que je trouve intéressant chez Alexandre, c'est qu'il a trouvé une idée qui était un peu différente. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et beaucoup de gens veulent faire des formations sur le développement personnel, le marketing, l'investissement en bourse. Ce sont fondamentalement des mauvaises idées. Le problème, c'est que quand vous essayez d'appliquer les mêmes techniques marketing au même marché que tout le monde et que vous n'avez pas un avantage particulier, ça peut être difficile de sortir du lot et de vous différencier. Ce qui est intéressant chez Alexandre, c'est qu'il a essayé de trouver un angle différent, une idée différente, une manière nouvelle de répondre à un besoin qui existait déjà. Et pour terminer, si vous aimez les idées marketing un petit peu différentes, les idées de business qui sortent de l'ordinaire, j'ai une newsletter que j'envoie quasiment chaque lundi qui s'appelle « Le mix du lundi ». Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr et je partage chaque lundi matin ou presque mes découvertes marketing et psychologie de la semaine. Le lien, c'est marketingmania.fr/mix. Je vous retrouve lundi prochain dans le prochain mix du lundi, dans deux semaines, le mardi, pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania et je vous dis à bientôt.